Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour les 30 prochaines minutes. Au sommaire cette semaine, on célèbre au Musée des Beaux-Arts du Canada le 100e anniversaire de naissance d'un monument de la peinture canadienne, Jean-Paul Riopel.
C'est un esprit créatif exceptionnel qui a réussi pendant toute sa carrière à se réinventer, à repousser les limites de ce qui était possible en art. On a plus que 30 collectionneurs privés et publics qui ont prêté des œuvres. On a plus de 130 œuvres qui sont inclus dans l'exposition.
Dans le minuscule village en bord de mer de Tête-à-la-Baleine, deux micro-agriculteurs de la ferme du Rigolet tiennent tête au climat.
C'était comme déjà un peu incertain qu'on allait réussir même à planter des légumes au terrain. D'habitude, on ne plante pas non plus dans un champ qu'on vient de défricher. On s'est dit pourquoi pas l'essayer. On avait les semences et tout, fait qu'on l'a essayé.
La galerie d'art OAU ouvre ses portes à Matagami. La population est aux anges.
Les gens nous disent à quel point ils sont heureux, à quel point c'était nécessaire pour Matagami, que ça va changer leur quotidien. J'ai une fierté sans borne.
À Montréal, un premier référentiel de compétences balise la profession de conseiller en intégration des personnes immigrantes. Et le gouvernement canadien investit 1,8 million de dollars dans le développement économique des communautés francophones des prairies.
Je pense qu'on peut se réjouir du renouvellement, mais c'est pas une fin, c'est un commencement de quelque chose de beaucoup plus grand, je l'espère, pour nos communautés francophones.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Bonjour et merci de nous tenir compagnie. On célèbre cette année le 100e anniversaire du peintre canadien Jean-Paul Riopel et les amateurs d'art se bousculent aux portes du Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa depuis le 26 octobre pour admirer, contempler et se fondre dans l'univers de ce monument des arts visuels au Canada. Ils auront jusqu'au 7 avril d'ailleurs pour le faire, 7 avril 2024, pour se délecter des œuvres de ce grand peintre canadien et pour avoir vu moi-même l'une des exposition de Riopel à Québec, je peux vous dire que ça vaut vraiment le détour. L'exposition Riopel à la croisée des temps couvre 5 décennies de création artistique de Jean-Paul Riopel, allant de 1942 à 1992. Cette rétrospective présente Riopel comme un expérimentateur et un innovateur infatigable, ancré dans le monde contemporain. Marie Hillès a pu non seulement voir l'expo, mais aussi en discuter avec le directeur général du Musée des Beaux-Arts au Canada, Jean-François Belle-Île.
Donc, je pense que c'est une exposition qui est incroyablement importante pour le musée, mais pour le Canada au complet. Jean-Paul Riopel, c'est un de nos grands monuments, potentiellement notre premier grand monument, qui a été reconnu comme tel et célébré à travers la planète de son vivant. Hein. Et c'est quelqu'un qui, malheureusement, est quand même méconnu de beaucoup de monde. C'est un esprit créatif exceptionnel qui a réussi pendant toute sa carrière à se réinventer, à repousser les limites de ce qui était possible en art. Et donc, d'avoir la chance de montrer ça dans son entièreté, parce que c'est une rétrospective, donc on couvre plus de 50 ans de la carrière de l'artiste. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qui a été, honnêtement, qui n'est pas facile à faire, parce qu'on a plus que 30 collectionneurs privés et publics qui ont prêté des œuvres. On a plus de 130 œuvres qui sont incluses dans l'exposition. Donc, c'est un travail monumental qui prend des années à monter et qui doit être monté par une institution comme le Musée des Beaux-Arts du Canada, qui est capable d'aller chercher ces œuvres-là dans des collections privées et publiques.
Donc, 130 œuvres, est-ce que vous avez un coup de cœur?
Mon premier coup de cœur, c'était Pavane, qui est une œuvre exceptionnelle de 1963. Mais c'est une œuvre que je connaissais déjà. C'était un coup de cœur un peu facile. Puis je dois dire que depuis que l'exposition est montée, donc ça fait une semaine à peu près que j'ai le privilège de l'avoir à peu près finale, j'ai eu plusieurs coups de cœur. On dirait que dans chaque salle, j'ai une nouvelle découverte. J'ai un nouveau moment d'émotion. Puis on est à côté ici d'une œuvre que moi, je trouve exceptionnelle, qui est un collage de 1967, qui est monumental. Ça fait plus de 4 mètres de haut, fait avec des déchirures de gravures qu'il récupérait pendant sa production dans les années 60 à Paris. Et c'est plus que monumental, ça nous domine et ça nous fait réaliser à quel point son œuvre est grande et importante. C'est presque viscéral, je trouve, devant une œuvre comme ça.
Vous avez parlé déjà d'émotions, que ça fait une semaine que vous pouvez rôder entre ces œuvres. Quelles sont les émotions que vous avez vécues en voyant ces œuvres?
Il y a quelque chose de spécial qui se passe avec Riepel. Je pense que le premier contact avec un tableau, c'est plus de l'étonnement ou du wow ou impressionné, un peu comme devant un feu d'artifice. Puis tranquillement, avec le temps, cette émotion-là se transforme en une émotion plus intérieure. C'est comme si, à travers le spectaculaire, il réussit à nous accrocher. Puis tranquillement, il inverse le regard pour qu'on se mette à penser intérieurement et avoir des émotions plus intérieures sur... et puis là, ça dépend vraiment de notre journée qu'on a eue, ça dépend du contexte dans lequel on découvre et compagnie, mais ça revient vers nous. Au début, ça sort et à la fin, ça revient vers nous.
Vous êtes en fonction depuis quelques mois. Comment vous sentez-vous?
Super bien. Super bien. C'est un rêve pour moi de diriger ce musée. On est vraiment chanceux, honnêtement, en tant que Canadien, d'avoir une institution comme ça, une collection comme ça au pays, qui est reconnue à travers le monde. Puis ben moi, je me pince à tous les jours. Parce que je viens au musée, puis je vois l'ampleur de cette institution, la qualité des gens qui l'ont construit et qui la construisent encore aujourd'hui. Puis je me dis, ben ils ont dû se tromper. C'est pas moi qui voulais choisir. C'est trop beau, c'est trop grand, c'est trop important. Ça se passe super bien, puis je me sens extrêmement chanceux de pouvoir diriger cette institution-là.
Dans le cadre des soirées gratuites du jeudi, le public aura l'occasion de visiter l'exposition gratuitement.
C'était une entrevue de Marie Hillès dans le cadre du programme IJL.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chétiquan en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Prenons la direction du Québec où on a de nouveau la chance de retourner voir ce qui se passe dans le magnifique et minuscule village de Tête-à-la-Baleine et où s'intègre tout doucement notre nouvelle correspondante là-bas. Elle s'appelle Raphaël Hensley-Vincent. Ceci alors que se conclut la troisième saison de la Ferme du Rigolet, un projet pilote devenu grand. La ferme a construit et lancé l'automne dernier une serre maraîchère chauffée qui lui a permis de mettre en œuvre cet été le volet social de son projet de ferme, celui qu'elle convoite en fait depuis sa fondation en 2020, soit de bonifier l'offre de produits alimentaires frais pour cette communauté reculée et isolée du Québec. Dans un village d'une centaine d'âmes, loin du réseau routier et où l'approvisionnement alimentaire se fait par bateau, notons-le, la jeune ferme de la région de la Côte-Nord, en dépit du climat nordique, réussit à faire pousser des tomates, des concombres, des poivrons, de fines herbes et des betteraves. Retour donc sur une saison fructueuse qui s'est déroulée sous le signe de la nouveauté et de l'audace avec Raphaël Hensley-Vincent.
L'organisme à but non lucratif fondé en 2020 célébrait cet été sa troisième année d'existence. La ferme s'est concentrée les deux premiers étés sur l'aménagement du terrain et la recherche en agriculture nordique. En collaboration avec le Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale, le CEDFOB, la plantation d'arbres fruitiers et de l'orpin rose a été réalisée. En ayant érigé une serre maraîchère à l'automne dernier sur le terrain de la paroisse, la jeune ferme a pu mettre en œuvre cet été le volet social qui a toujours été au cœur de sa mission, soit l'amélioration de l'offre en produits alimentaires frais pour la communauté. Dans sa serre chauffée située au cœur du village, la ferme du Rigolet a fait pousser pour la première fois cet été des poivrons, des tomates et des concombres, en dépit du climat nordique de la région. Chaque semaine, les récoltes étaient vendues à l'épicerie du village. Samuel Bellefleur s'estime content de cette saison. Les tomates cerises ont été particulièrement appréciées au village.
Nous autres, c'est sûr qu'on prend des notes, là, on regarde c'est quoi qui a fonctionné, c'est quoi qui fonctionnait moins, puis on va s'adapter, puis éventuellement, ça va peut-être correspondre un peu mieux à la demande au village, là.
Lorsqu'on lui demande de décrire la saison qui s'achève, le directeur de la ferme choisit le mot « nouveauté ».
Ben ça s'est assez bien passé, là. C'est sûr qu'il y a toujours des places à amélioration, mais je pense que considérant qu'on n'avait jamais démarré la serre ni fait pousser de légumes sur le terrain, c'est quand même assez fructueux. Surtout étant donné que c'est moi qui a démarré les semis puis tout ça, puis j'avais jamais fait ça avant. Fait que ça aurait très bien pu arriver qu'il y ait un incident, que quelque chose tombe à l'eau, puis que finalement on n'a rien à planter dans la serre, là. Mais ça s'est bien passé, là. Puis comme certains ont pu le voir, ça pousse encore dans dans la serre, fait qu'on va avoir des récoltes encore probablement pour quelques jours ou semaines.
Cette première saison complète de récolte et de distribution pour la ferme maraîchère s'est déroulée sous le signe de l'incertitude, mais aussi de l'audace. Samuel Bellefleur relate ainsi l'ouverture de nouvelles parcelles de culture sur le terrain de la ferme, aux abords de la rivière.
On a défriché le terrain au printemps, fait que c'était comme déjà un peu incertain qu'on allait réussir même à planter des légumes au terrain. C'était vraiment plus un test là, cette année. D'habitude, on plante pas non plus dans un champ qu'on vient de défricher. Normalement, on va prendre plusieurs années à mettre des engrais verts puis à préparer le sol. Mais dans notre cas, on s'est dit pourquoi pas l'essayer. On avait les semences et tout, fait qu'on l'a essayé.
Les conditions météorologiques estivales ont aussi représenté un défi supplémentaire pour la ferme du Rigolet.
Ben, c'est sûr que ça a été une année très pluvieuse là, partout, d'ailleurs au Québec, là, mais dans notre cas aussi, ça n'a pas été évident là, au terrain. On venait aussi juste de défricher, le sol était comme super, comme une éponge. Là, mm-hmm. On a eu un peu de misère à drainer l'eau, puis ça fait en sorte, je pense qu'il y a certains légumes qui ont eu les racines dans l'eau puis qui n'ont pas aimé ça, là, mais il y a vraiment une différence entre ce qu'on a dans notre serre et ce qu'on a au terrain là, pour l'instant. Là.
Des travaux y sont prévus au printemps prochain, notamment l'installation de drains agricoles entre les parcelles de culture pour faciliter le drainage du sol.
Bien, en fait, c'est que notre terrain, on a divisé en petits jardins là, de toute la même taille pour avoir comme une uniformité. Puis on veut essayer d'aller mettre comme des drains agricoles un peu au travers de ces jardins-là pour que l'eau s'écoule un peu mieux. Puis fait que ça, c'est de creuser dans le fond des digues, rentrer les drains dans le sol. Des petits drains, là, pas énormes, là, mais peut-être 6 pouces de diamètre. Là. Puis après ça, c'est d'aller remettre du remblai là-dessus, là, du sable, toutes sortes d'affaires pour que l'eau s'écoule puis elle puisse comme rentrer dans le drain. Puis fait que là, si on creuse en ce moment puis que le sol se remplit d'eau, ben, c'est comme vraiment pas évident après ça pour travailler. On va attendre probablement au printemps. Ben, en fait, on va attendre au printemps. Là, ça a été comme décidé. Là. Puis c'est ça. Fait que ouais, c'est quand même des travaux... Ben, c'est sûr qu'avec une pelle tout ça va assez bien, mais c'est pour notre terrain, ça va quand même donner un petit coup là, au niveau de l'aménagement. Là.
Questionné sur l'année à venir, le directeur explique.
Ben, dans le fond, la ferme, c'est une OBNL, c'est un organisme à but non lucratif. Il n'y a personne qui possède cette entreprise-là concrètement. Fait que c'est sûr que on dépend beaucoup des subventions d'une année à l'autre, mais ça regarde super bien en ce moment pour l'année prochaine. Là, on a comme des... déjà quelques subventions en vue là, qui pourraient s'appliquer à nous, puis fait qu'on n'y a pas une année à la fois, mais pour l'instant ça augure assez bien.
D'ici là, quelques dernières récoltes automnales sont attendues à l'épicerie du village. Mais ça dépendra de la nature, nous rappelle Samuel Bellefleur.
Peut-être quelques petites carottes là, qui s'en viennent, puis sinon ben, ça va être vraiment les dernières tomates, surtout les grosses tomates qu'on en a encore un petit peu. Puis des poivrons, les concombres c'est pas mal fini presque là. Fait que tu sais, je peux rien vraiment assurer là, ça va vraiment dépendre de tu sais, parce qu'on peut avoir des tomates qui sont encore vertes, c'est juste à savoir est-ce qu'ils vont avoir le temps de mûrir avant qu'on ferme la serre, on ne sait pas là.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin, vous écoutez Point de vue.
Le gouvernement canadien renouvelle sa confiance envers le Conseil de développement économique de l'Alberta et lui confie la co-gestion d'une subvention d'1,8 million de dollars. L'annonce en a été faite le 20 octobre dernier par le ministre fédéral de l'Emploi, du développement de la main-d'œuvre et des langues officielles, Randy Boissonneau. L'aide accordée par Ottawa doit servir à soutenir des initiatives de développement économique émanant des francophones du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. L'aide sera administrée par le Conseil de développement économique de l'Alberta et par ses homologues des deux autres provinces des Prairies. Camille Denis à Plamondon en Alberta en parle avec Étienne Allary, directeur général du Conseil de développement économique de l'Alberta.
Bien, c'est certain qu'on remercie dans le cadre du gouvernement fédéral et développement économique pour les Prairies, Prairie-Can, pour la confiance renouvelée. Le fonds qui a été annoncé, c'était lié à l'initiative de développement économique qu'avait mis en place le gouvernement fédéral il y a plusieurs années. Et il y a déjà 3 ans, on avait obtenu un projet pilote qui s'appelait le Fonds de développement économique francophone pour l'Ouest. Alors, les 4 provinces ou les 4 organisations, là, le CDE en Alberta et nos homologues des 3 autres provinces de l'Ouest, on avait géré ce projet pilote-là. Mais en cours de route, l'Agence de développement économique, qui s'appelle à l'époque Diversification de l'économie de l'Ouest, a été séparée en 2. Alors, il y a Prairie-Can qui a été formé au développement économique pour les prairies, puis Pacific-Can uniquement pour la Colombie-Britannique. Alors, c'est pour ça que le ministre a comme annoncé récemment 1,8 million de dollars dans un fonds de développement économique francophone des prairies. Alors maintenant, ce fonds-là vise les trois provinces des prairies. Vu qu'il y a une province de moins, il y a un peu plus d'argent pour réaliser des projets. Alors, au total, il y a une trentaine de projets qui avaient été soumis qui représentaient 1,6 million de dollars dans les trois provinces des prairies. Alors, dans un premier temps, dans chaque province, il y a un comité de sélection qui a été mis en place. Il fallait s'assurer de la conformité ou de l'éligibilité des demandeurs, parce qu'ils répondaient à tous les critères. Et ensuite, il fallait un peu prioriser les projets, lesquels on verrait davantage comparativement à d'autres projets. Et nous avons soumis cela à un comité des trois provinces. Alors, il y a 6 personnes qui émanent de chacune des provinces des prairies. Alors, 6 au total. Ils se sont rencontrés la semaine dernière pour faire l'évaluation des projets et déterminer ou accepter les projets qui étaient pour être financés dans cette première année-là.
Les projets acceptés devront être réalisés avant le 31 mars 2024.
Alors, même si l'annonce a été faite au mois d'octobre, on parle d'une année financière 2023-2024, mais il y avait également un sentiment d'urgence, c'est que les projets doivent être réalisés par le 31 mars 2024. C'est certain que le comité est allé de l'avant avec des projets dont on avait l'assurance que les fonds pouvaient être dépensés dans les 6 prochains mois. Et juste pour aviser les d'autres organismes qui auraient un intérêt, là, un autre appel à projet aura lieu en janvier et là, ça couvrira toute l'année financière 2024-2025. Alors, du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 pour réaliser ces projets-là dans la deuxième année. Au début de l'hiver, là, avant le 31 mars 2024 pour la prochaine année, et il y aura ultimement un autre appel l'année prochaine pour une dernière ronde de projets à financer. On invite les organismes qui ont intérêt à ne pas attendre et aller chercher des projets porteurs parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est maintenant, c'est la qualité des projets après 3 ans qui ressort. Dans les premières années, des fois, on avait de la difficulté à atteindre le seuil minimum de montant à répartir, puis là, c'est plutôt l'inverse. Ultimement, je pense que pour le Conseil de développement économique d'Alberta, c'est intéressant qu'on puisse contribuer à aider des organismes à mettre en place des projets de développement économique. Alors, on sait que le secteur du développement économique, c'est quand même assez très large comme définition. Puis, par le passé, peut-être, les organismes savent pas trop quoi faire comme demande, mais là, je pense qu'ils sont plus orientés, puis on voit qu'on veut générer des revenus pour aider nos organismes. Et on veut également, ultimement, peut-être créer de l'emploi aussi. C'est peut-être des critères sur lesquels on pourrait mettre davantage d'accent dans la prochaine ronde. Je pense qu'on peut se réjouir du renouvellement du FDEFP, mais c'est pas une fin, c'est un commencement de quelque chose de beaucoup plus grand, je l'espère, pour nos communautés francophones.
Bonjour à toutes et à tous, ici Marine de Toronto en Ontario et vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI, écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On fait un petit croche vers le nord du Québec où la nouvelle galerie d'art OAU de Matagami a été inaugurée le samedi 28 octobre dernier en soirée. Une première en territoire d'Eyu-Itchie-Bay-James dans la région administrative de la côte nord du Québec. Des artistes comme Stephanie Thompson et Jocelyne Grondin n'ont pas pu cacher leur enthousiasme de voir naître cette nouvelle galerie. Notre journaliste Michael Grandjean a été collecter les sourires sur place, dont celui de son employé Daniel Glisch, président de Radio Matagami, l'un des partenaires du projet, mais pas seulement lui, le voici.
On s'est dit, la culture, c'est vraiment un vecteur très, très fort d'appropriation du milieu. On s'est dit, ça nous prend quelque chose pour dépasser les épreuves de la communauté qu'on a, si on veut. Donc, Matagami, c'est plus que juste une communauté où on vient extraire des ressources naturelles. C'est des gens. La façon de mettre en valeur les gens, c'est beaucoup par la culture. Donc, on s'est dit, ça fait longtemps qu'on y pense, ça fait longtemps qu'on y rêve. Et il n'y a jamais meilleur moment que maintenant pour commencer un projet. C'est beaucoup de fierté de voir un projet sur lequel on a travaillé depuis plusieurs années de se réaliser. Fierté du fait que c'est un projet qui est issu de la communauté, qui est vraiment différent, puis qui arrive dans une période où il y a une certaine incertitude, puis les gens se demandent qu'est-ce qu'on va devenir, puis qu'on dit, bien, regardez, nous, on saute, on y va. Merci à tous les partenaires, tant privés qu'institutionnels.
Monsieur Dubé, maire de Matagami.
Belle journée pour Matagami. Belle journée pour la région aussi, parce qu'enfin, on va avoir notre galerie d'art d'artistes locales et régionales à Matagami. On va montrer que dans la région Nord du Québec, on n'est pas juste une région de ressources. On s'aperçoit qu'une galerie d'art, comme qu'on voit ici à Matagami, ça ne se fait pas tout seul. Il y a plusieurs partenaires qui vont être importants de souligner, autant de côté argent, mais côté implication aussi. Il est important de toutes les mentionner et de leur dire un très grand merci, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul.
Un enthousiasme qui est partagé par les artistes de la région, dont Stéphanie Thompson, artiste peintre professionnelle et chargée de projet.
Les gens nous disent à quel point ils sont heureux, à quel point c'était nécessaire pour Matagami, que ça va changer leur quotidien. J'ai une fierté sans borne.
Jocelyne Grondin, artiste du verre de Chapais.
J'en reviens pas. Je suis vraiment épatée de voir comment les gens de Matagami ont participé. Je trouve ça vraiment merveilleux de voir la population qui est là et de voir tout le travail qui a été fait pour nous permettre de rayonner dans la région.
Une inauguration qui a réjoui également la population, comme l'atteste ce témoignage de Carole Aucoin, résidente de Matagami.
C'est vraiment extraordinaire. L'ambiance est belle. Que dire des toiles? C'est vraiment des chefs-d'œuvre. On est très, très heureux d'avoir ça ici à Matagami. On est chanceux.
On dénombre au Québec des milliers de conseillers en intégration des personnes immigrantes. Leur métier, soutenir l'intégration des nouveaux arrivants et les aider à se mouvoir au travers de leur nouvelle société d'accueil. La plupart d'entre eux ont eux-mêmes, à un point donné, été des candidats à l'immigration. Aujourd'hui, ils servent de point de référence, de point de repère aux nouveaux Canadiens qui s'installent au pays. Et pourtant, le métier n'est pas encore au répertoire du Code national des professions. Il est apparu donc essentiel pour les intervenants du milieu de développer et de définir un référentiel de compétences pour les conseillers en intégration des personnes immigrantes, une espèce de cahier de charge. Eh bien, le Centre d'appui aux communautés immigrantes en a fait son affaire avec les partenaires du milieu et a lancé donc ce grand chantier. Et bonne nouvelle, ils sont arrivés au bout de l'exercice le 20 octobre dernier. Un premier référentiel de compétences a été défini et lancé. Mourad Mamli a assisté au lancement à Montréal de ce référentiel unique dans l'histoire de la profession de conseiller en intégration des personnes immigrantes au Québec. Il est en compagnie de plusieurs acteurs du milieu et de l'équipe qui a élaboré le référentiel de compétences, mais d'abord avec Anaït Alexanian, directrice générale du Centre d'appui aux personnes immigrantes de Montréal.
Pour moi, c'est un événement historique parce que, vous savez, le milieu communautaire existe depuis des décennies. Il y a des organismes qui sont là depuis 70, 80 ans. Et il y a des milliers d'intervenants qui concernent l'intégration, concernent l'emploi, des intervenants sociaux qui travaillent dans le domaine. Ils travaillent tellement fort, ils ont tellement de compétences, mais malheureusement, on constate que c'est un métier qui n'existe même pas dans le Code national des professions, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas valorisé, pas du tout. Et il n'existe pas une formation qui nous permet de mettre en place quelque chose commune, une vision commune, une formation commune, aussi une structure, quelque chose de très structuré qui nous dit voici la formation, les compétences, les connaissances que tu as besoin pour intervenir auprès des personnes immigrantes. Heureusement, je remercie vraiment mes partenaires qui sont embarqués dans le projet parce que tout le monde sentait le même besoin. Vous savez, le milieu communautaire travaille tellement fort. Là, on est dans, tous les jours dans l'action, dans le terrain. Parfois, on n'a pas le temps à faire des grandes réflexions puis des grands projets. Bref, on s'est réunis. On a mis en place le projet. On est allé voir la commission des partenaires du marché du travail qui nous a cru, qui nous a financés. Et puis, il nous a permis de mettre en place cet outil que vous avez vu aujourd'hui, référentiel des compétences pour les conseillers en intégration qui sont spécialisés pour les personnes immigrantes. Et le choix des mots spécialistes en intégration, ce n'est pas par hasard. Parce que ce qu'on constate, c'est que ces conseillers en intégration, n'importe comment qu'on les appelle, pour intervenir auprès d'une personne immigrante avec l'objectif de faciliter son intégration, ils ont besoin tellement de connaissances techniques, professionnelles, mais aussi des compétences personnelles pour pouvoir aider les nouveaux arrivants à s'intégrer dans la société d'accueil. Alors, on a mis tout ça en commun, on a fait beaucoup de rencontres, des focus group, on a rédigé beaucoup de choses, beaucoup de documentation, beaucoup de recherches, pour venir en conclusion qu'on a besoin 11 compétences essentielles pour intervenir auprès des nouveaux arrivants.
Parmi ces intervenants et professionnels et conseillers en main-d'œuvre qui ont travaillé sur ce référentiel pour arriver à dégager ces 11 compétences nécessaires pour ce métier-là, on écoute Madame Monique Delaurier, elle est consultante en développement de la main-d'œuvre, suivie aussi de Madame Rachida, une autre spécialiste de la main-d'œuvre communautaire.
C'est de faire une recherche documentaire pour voir qui on inclut dans ce référentiel-là. Et c'est là qu'on a défini qu'on incluait 4 fonctions de travail. Les conseillers en intégration sociale et en installation, les conseillers en intégration professionnelle, les chargés de projet, puis aussi ceux qui s'occupent de la régionalisation de l'immigration. Que le référentiel, il touche ces 4 groupes de spécialistes en intégration des personnes immigrantes. Que la première étape, ça a été, après la recherche documentaire, de faire une analyse de profession, qu'on a réuni une quinzaine de conseillers de différentes spécialisations, de différents organismes, puis on a analysé leurs tâches. Puis à partir de ça, on a fait un rapport. Puis à partir du rapport d'analyse de profession, là, on a déduit les compétences. Puis on est arrivé avec 11 compétences qui sont essentielles à l'exercice de la profession. Et c'est la première fois qu'on a un référentiel ici au Québec pour les conseillers en intégration des personnes immigrantes qui regroupe les 4 fonctions de travail. Puis la prochaine étape, parce qu'il va y avoir une prochaine étape, c'est ça aussi l'idée, c'est de développer après, à partir du référentiel, des outils de formation et des outils d'aide à la tâche, autant pour les nouveaux conseillers en intégration que pour ceux qui sont déjà en place. Et ça, pour l'ensemble des organismes non lucratifs là, qui interviennent auprès des personnes immigrantes.
Bonsoir, je m'appelle Rachida. Je suis donc dans les ressources humaines au niveau du Centre social d'aide aux immigrants. Le besoin vient du fait qu'il n'y a aucun référentiel déjà, il n'y a aucune formation pour ce genre de métier. C'est ce qui fait que d'ailleurs, j'en profite pour dire que ça va se. Il y aura une continuité, dans le sens une suite, je dirais peut-être un AEC ou peut-être un micro-programme ou même un certificat en intervention. Ça serait vraiment une excellente chose parce que en ce moment il n'y a vraiment aucune formation pour ce métier-là.
Il reste beaucoup à faire. Identifier un corps de compétences, c'était donc la première étape à franchir. Structurer un programme court ou long de formation dans cette discipline reste donc encore à bâtir. Et complément d'info, la 11e semaine nationale de l'immigration francophone s'ouvre au tout début novembre. Et bien voilà, c'est déjà tout pour nous cette semaine à Point de vue. Merci à nos journalistes Raphaël Hensley-Vincent, Camille Danis, Mourad Mamli, Marie Hillès et Michael Grandjean, coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'être là, vous savez qu'on l'apprécie. Tout comme ceux qui nous suivent, restez à l'écoute. Ciao.
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.